Radio Kapi.
Oh, Kapi.
En début de ce journal, un bref aperçu de la tournée des divers candidats présidents à la présidentielle de décembre 2023. Ils poursuivent leur tentative d'attirer, à s'attirer la sympathie des électeurs dans diverses provinces. Nous parlons lutte contre les violences faites à la femme et aux jeunes filles dans ce journal. C'est au travers du lancement à Béni de la campagne de séjour d'activisme. Cette campagne se mène par l'organisation des diverses activités de sensibilisation. Notre invitée, Anne-Sylvie Linder, chef de la sous-délégation du CICR à Goma, que nous recevons en fin de ce journal, commente le début de la campagne des séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Restez donc avec nous pour découvrir d'autres faits d'actualité à travers tout le territoire de la RDC et cellules parquées sur Radio Kapi, votre chaîne d'information par excellence. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Campagne électorale pour la présidentielle. Le candidat Agren Galassi a lancé hier vendredi à Kinshasa sa campagne électorale. Il a affirmé avoir reçu l'ordre des dieux pour élever le pays. Il promet de poursuivre sa campagne dans la ville de Kinshasa. Le candidat Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé ce samedi à Gemena, dans la province du Sud-Ubangi. Celle-ci constitue la première étape pour sa campagne dans le Grand Équateur. Pendant ce temps, et toujours pour le compte du chef de l'État sortant, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a lancé hier depuis Bruxelles la campagne du candidat numéro 20 en Europe et pour l'ensemble de la diaspora dans Afrique du Sud, Belgique, Canada, France et États-Unis. Ce, en compagnie de quelques députés et membres du gouvernement. Le candidat Moïse Katumbi, quant à lui, est arrivé ce samedi à Beni, au Nord Kivu. Constant Mutamba, candidat numéro 2, est attendu samedi dans la ville d'Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe. Le candidat Noël Tchani est à Kikwit, dans la province du Kwilu. Ici à Kinshasa, la caravane motorisée des partisans du candidat Moïse Katumbi a été attaquée hier vendredi à la première rue limitée par les jeunes, non autrement identifiés. Selon le coordonnateur de la jeunesse du parti Ensemble pour la République ville de Kinshasa, ces jeunes ont fait irruption munis d'armes blanches qui les ont brutalisés et ont tout saccagé au passage. Ces jeunes, a-t-il poursuivi, disaient à haute voix que Kinshasa est le fief de leur candidat et que Moïse Katumbi ne pouvait pas venir y battre campagne. Cependant, Simon Bouhoulou reconnaît qu'ils ont eu la vie sauve grâce à l'intervention des éléments de la police nationale congolaise. Simon Bouhoulou, coordonnateur de la jeunesse d'Ensemble pour la République, ville de Kinshasa.
Je ne peux que condamner et dénoncer les actes odieux, inciviques, au nom des Ensemble pour la République, dont je suis le coordonnateur provincial de la jeunesse de ville-province de Kinshasa. Pendant que nous étions sous caravane, pendant qu'on était en train d'expliciter à la population de limiter cette fois-ci le pourquoi de la candidature de Moïse Katumbi, pourquoi Moïse Katumbi a postulé, on était en train d'expliquer aux jeunes qui souffrent, aux jeunes qui n'ont pas de courant, qui n'ont pas l'eau, qu'un autre Congo est possible avec Moïse Katumbi. On a été attaqués. Ces jeunes gens étaient armés de toutes sortes d'armes blanches. Il ne leur manquait que d'armes à feu. Et n'eût été l'intervention magistrale de la police nationale congolaise qui, pour une première fois, cette police s'est montrée républicaine. Je salue le colonel Numbi. Je salue le capitaine commandant du 5e escadron mobile d'intervention Gemi Limité qui, à mon appel, ils ont envoyé des jeeps. Et ces civiques, en voyant les deux jeeps d'intervention de la police, ils ont pris fuite. Ils avaient des couteaux, ils avaient des marteaux, ils avaient tout ce qui peut faire mal à un être humain.
Contacter le directeur du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, condamne ce comportement qu'il qualifie de barbare. Cela, dit-il, risque de remettre en question la vision du chef de l'État qui est celle de respecter la liberté de toute personne. Norbert Yambayamba met en garde à tous ceux qui vont s'illustrer en perturbant la campagne électorale. Aussi, il félicite le professionnalisme de la police nationale congolaise qui a pu sécuriser les membres du parti politique Ensemble pour la République. On écoute le professeur Norbert Yambayamba.
Nous voudrions dénoncer avec véhémence ce type de comportement qui a le caractère de remettre en question la vision du chef de l'État qui est censé être celle de gérer les contradictions, celle de reconnaître la liberté de tout un chacun, celle de permettre à tout un chacun de se mouvoir et de faire la campagne comme il se doit selon les règles de l'art. J'allais dire conformément aux lois et textes réglementaires. Ceci étant, parce que ce sont des jeunes congolais, nous voudrions demander à tous les jeunes, parce que l'avenir leur appartient, si aujourd'hui ils doivent se comporter portée dans le sens de déstructurer, de désintégrer, de désarticuler la République en créant une sorte de haine viscérale, en s'opposant les uns les autres. Je pense qu'ils sont en train de préparer le lit de leur propre destruction. Nous insistons pour que, véritablement, nous puissions ne plus écouter, ne plus voir ces genres de comportements. Nous saluons l'hyper-efficacité, l'hyper-performance de la police nationale congolaise qui a démontré son professionnalisme en mettant hors de temps de nuire tous ces jeunes civiques qui ont voulu donner une autre connotation malveillante au pouvoir qui est du reste obligé de travailler pour l'intérêt de tous les Congolais.
C'est un dossier signé Blaise Shindani Kambala. Préservons plusieurs années pour construire l'Ituri que de détruire cette province à ces quelques jours de la campagne électorale. Appel du sénateur John Tibasima devant la presse à Bounia ce samedi. Ce notable de l'Ituri encourage tous les candidats en lice pour la députation nationale comme provinciale des territoires d'Iromou, Djougou, Mambasa, Mahagi, Aro et la ville de Bounia. Privilégier l'unité et la cohésion de tous les Ituriens sans distinction. Il appelle ainsi la population de la province déjà meurtrie par les conflits armés à consolider les acquis de développement et les efforts en cours à Bounia et dans d'autres territoires de l'Ituri faits par les autorités. Un extrait des propos du sénateur John Tibasima est choisi par Martial Kiza.
Je voudrais, pendant cette période de campagne électorale, apporter mes encouragements à la population de l'Ituri. Et ceux qui sont en compétition, ce ne sont pas des ennemis. Il faut éviter de considérer que la période durant laquelle les inimitiés doivent s'exprimer. La campagne dure 30 jours, la vie dure plusieurs années. Préservons plusieurs années, on est en compétition, on se respecte, on ne s'insulte pas et on fait la campagne pour son candidat. Et je crois que si on y va de cette manière-là, tout va se faire normalement. Et nous pensons qu'avec tous les efforts qui sont actuellement en cours, principalement dans la ville ici, vous voyez qu'il y a une très bonne évolution en ce qui concerne les axes routiers. Mais n'oubliez pas non plus les aspects de courant. Il y a des pourparlers qui sont en cours pour apporter de l'énergie à Mahagi, à Aru, à Bounia.
L'Union nationale de la presse du Congo section du Sud Kivu a répertorié 4 délits principaux de presse commis par quelques journalistes des médias de Bukavu. Et ce, au cours du trimestre dernier, comparé aux 12 cas de délits répertoriés au deuxième trimestre de l'année en cours. Ce rapport a été porté à la connaissance des professionnels des médias ce vendredi 24 novembre. La centrale de monitoring des médias qui a produit ce rapport rappelle que le travail du journalisme est un métier noble et qui ne devrait pas s'exercer au rabais. Darius Kitoka, président de l'UNPC Sud Kivu, dans ses propos recueillis par Jean Kassami.
Chaque 3 mois, nous devons évaluer le travail qui a été fait au niveau de la presse dans notre ville de Bukavu. Nous sommes dans une région très sensible et si le média ne se comporte pas professionnellement, on risque encore de sombrer dans des déboires et peut-être appeler la population encore à des soulèvements ou à des actes qui ne vont pas dans le même sens que la recherche de la paix. Voilà pourquoi la centrale de monitoring aujourd'hui a encore une fois confectionné quelques dérapages et quelques écarts par rapport à ce que demande notre code d'éthique et de déontologie professionnelle et communiqué aux médias ce que cette centrale a constaté dans les comportements autant personnels que collectifs. Il n'y a eu que quelques médias qui ont été monitorés. On a relevé que 4 délits principaux dans le média. Le semestre passé, on est arrivé jusqu'à 12 et on peut estimer que peut-être les remarques qui ont été formulées au courant du trimestre passé ont été entendues et aujourd'hui, on a eu quand même une certaine baisse, mais on continue à être regardant.
Signalons que les journalistes présents à la rencontre ont émis le souhait de voir l'UNPC multiplier de telles séances au point de réduire à zéro les cas des délits de presse dans l'environnement médiatique de la province du Sud Kivu. Nord Kivu, à présent, lancement ce samedi à Beni de la campagne de séjour d'activisme contre les violences faites à la femme et aux jeunes filles. Cette campagne qui va se dérouler à travers une série d'activités de sensibilisation dans des conférences est organisée par le bureau Genre, Famille et Enfants de Beni en collaboration avec d'autres organisations intervenant dans ce domaine. Elle vise à lutter contre ces abus qui sont commis dans la communauté. Ruth Sabouni, responsable intérimaire du bureau Genre, Famille et Enfants à la mairie de Beni, exhorte la population à s'approprier cette campagne afin de lutter contre ce fléau, surtout dans cette région touchée par l'insécurité. Elle est au micro des grévistes Salomon.
Nous sommes dans une zone qui est vraiment victime des affres de guerre. Nous devons nous mobiliser. Donc nous avons l'obligation de renforcer la sensibilisation pour que au moins toute la communauté ait les formations par rapport à ces différentes violences, mais aussi de prôner une bonne collaboration. Parce que lorsqu'on vit dans une entité, on doit vivre main dans la main pour que le développement soit manifeste. Parce que même si dans un foyer, il y a le papa qui ne communique pas avec les enfants, les parents qui ne parlent pas aux enfants, l'époux qui ne parle pas à l'épouse, rien ne peut marcher. L'esprit de vengeance qui est une conséquence des violences, parce que lorsqu'on est violenté, on ne raisonne pas les bonnes choses. Si on n'est pas pris à charge, on ne raisonne que la vengeance. Comment faire du mal à la personne qui vous a fait du mal? C'est pourquoi toute personne durant la campagne doit profiter aussi de l'occasion pour sensibiliser cette communauté pour que les enfants qui s'allient à ces groupes armés de quitter ces groupes pour que notre zone soit stable. Dans la brousse, il n'y a rien.
Notons qu'au niveau local, le thème retenu pour cette campagne est « Mobilisons-nous pour éradiquer les violences basées sur le genre, les exploitations et abus, harcèlement sexuel pendant la période électorale ». En plus bref, dans le territoire de Massis au Nord Kivu, les affrontements se sont poursuivis dans la matinée de ce samedi à Kilolirou et entre les FARDC et le M23. C'est sur l'axe Sake-Kichanga. Des bombardements du M23 auraient ciblé les positions FARDC. Les rebelles qui tentaient d'avancer vers la cité de Sake ont été empêchés face à la résistance de l'armée. Nord Kivu encore, l'escalade des violences armées dans le territoire de Massissi accroît l'afflux des déplacés qui sont aujourd'hui éparpillés à travers tout le territoire. Cette situation rend difficile et limite l'accès à certains humanitaires pour apporter leur appui aux personnes nécessiteuses dans cette région. C'est ce que déplore l'organisation internationale MSF. Cette organisation qui apporte une intervention d'urgence dans cette zone parle des plus de 70 cas de blessés par balle depuis octobre dernier qu'elle a évacué de Massissi et référé à Goma pour la poursuite de la prise en charge. MSF évoque cependant plusieurs défis, notamment sécuritaires et d'accessibilité, qui ne rendent pas faciles ces interventions. Graham Inglis, coordinateur projet pour MSF à Goma, est au micro de Denise Lukesso.
On essaie pour l'instant d'apporter un soutien en urgence en termes des besoins. Nos principes sont indépendance, neutralité et impartialité. On traite, ça ne dépend pas ethnie, religion, affiliation politique, ni groupe armé. Donc dès que quelqu'un est blessé ou malade, il devient un patient et on les traite. On a des défis. Parfois, on essaie de négocier avec tous les acteurs dans la zone d'assurer qu'ils connaissent MSF, nos activités, qu'on arrive d'apporter un soutien à la population. N'importe qui. Et le deuxième défi en termes d'accès à l'état de la route, surtout entre Sake et Massissi Centre, ça se dégrade énormément. Pour l'instant, il n'y a pas de passage pour nos véhicules, pour les intrants des médicaments pour aller à Massissi Centre. Chaque fois, il y a des affrontements qui empêchent notre accès. On sait qu'il y a des gens malades, des gens blessés qui n'ont pas accès aux soins. Donc, il y a la population qui souffre à cause de ça. Donc, on appelle tous les acteurs de respecter le droit international humanitaire, de protéger nos véhicules, nos staffs, toutes les structures médicales ainsi que la population civile.
En plus bref, le chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements est arrivé hier vendredi à Kisangani. Le lieutenant général Jacques Ichalingonza est en visite officielle d'inspection et de commandement dans la troisième zone des défenses. Ce samedi, il a réuni autour de lui les généraux, les officiers supérieurs et subalternes de cette zone des défenses pour un briefing. Une occasion pour le commandant de cette juridiction militaire, le lieutenant général Marcel Mbangu, de lui présenter la situation sécuritaire opérationnelle qui y prévaut. Pendant son séjour Boyomé, il a visité le camp d'entraînement Bahuma et celui d'instruction de Lukusa. Actualité au centre du pays, au Kasaï oriental, les pluies qui s'abattent ces derniers jours ne cessent de créer plusieurs dégâts sur la ville de Mbujimayi. Aucune commune n'est épargnée par ces dégâts. Certains bourgmestres affirment que des maisons non encore dénombrées se détruisent et des têtes de ravins continuent à se créer. Des explications avec Esther Ndalafina.
Dans la commune de Dibindi, un enfant de moins de 15 ans a connu la mort le jeudi dernier après l'écroulement d'un mur d'une clôture. Un autre jeune a été emporté par les érosions dans la commune de Bipemba. À la commune de Lakanchi, le bourgmestre affirme qu'un bâtiment d'une école primaire s'est écroulé et la partie restante est menacée par la pluie.
Il y a au moins 4 quartiers, c'est la pluie a dérangé vraiment. Ça a débordé, il y a eu des maisons qui sont écroulées, même en Boudine, dans les quartiers, Il y a eu l'inondation là-bas et au niveau de l'ancien bâtiment de l'UNICEF, il y a débordement, il n'y a pas de bonne canalisation.
Au niveau de la commune de Djoulou, le bourgmestre affirme que l'eau de ruissellement a détruit les travaux de modernisation de quelques routes.
Quand vous dépassez légèrement mer rouge en bas là-bas, il y a des cas. Et puis sur la Sénica sombre même, les caniveaux que ça se met à construire là-bas, c'est un petit caniveau qui n'a pas la facilité d'engorger toutes les eaux qui viennent de la tranche. Et puis il y a autant de maisons qui sont découvertes. C'est terrible.
Signalons que les dégâts des pluies n'ont pas épargné aucune commune de Mbujimayi. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Ambiance de fête chez les partisans d'André Rajoelina à Madagascar. Le président sortant a remporté le scrutin déroulé le 16 novembre dernier, 58,85% de voix. Le peuple malgache a choisi son président, a-t-il déclaré samedi en félicitant les électeurs pour la sagesse de leur choix peu après l'annonce des résultats de la commission électorale qui doivent encore être validés par la Haute Cour constitutionnelle. Pendant plusieurs semaines et sans répit avant le scrutin, 10 candidats de l'opposition réunis en collectif ont manifesté avec des centaines de soutiens dans les rues d'Antananarivo. Ils dénoncent la double nationalité des Rajoelina et ils ont promis de continuer. Les élections présidentielles sont prévues pour fin 2024 au Soudan du Sud. Un scrutin qui pourrait avoir du mal à se dérouler paisiblement en raison d'entraves aux libertés publiques. Les Nations Unies interpellent. Il sera impossible d'envisager des élections libres, équitables et crédibles en décembre 2024 à moins que tous les partis dirigeants et parties prenantes sud-soudanais ne prennent le taureau par les cornes pour s'entendre sur des mesures cruciales d'ici le premier trimestre 2024, a affirmé jeudi lors d'une conférence de presse l'envoyé spécial de l'ONU au Soudan du Sud.
L'invité.
La violence sexuelle est un traitement indigne et humiliant condamné par le droit international humanitaire. Propos de Anne-Sylvie Linder, chef de la sous-délégation du CICR à Goma. C'est à l'occasion du lancement ce samedi 25 novembre de la campagne internationale de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Quelles sont les actions du CICR dans la lutte contre les violences sexuelles? Anne-Sylvie Linder répond dans cet entretien accordé à Rosalie Zawadi.
Madame Anne-Sylvie Linder, bonjour.
Oui, bonjour Rosalie et à tous vos auditeurs.
Quelles sont les actions que mènent les CICR pour lutter contre les violences sexuelles en RDC?
Le CICR travaille en fait sur deux aspects principalement. Premièrement sur la prévention et aussi sur la réponse quand les personnes ont été victimes de violences sexuelles. On s'intéresse particulièrement aux violences sexuelles qui sont en relation avec le conflit armé, comme c'est le cas ici à l'est et dans la province du Nord Kivu. Et quand on parle de prévention, en fait, on parle de divers aspects. Premièrement, la spécificité du CSR, vous le savez, c'est d'avoir ce dialogue bilatéral et confidentiel avec tous les porteurs d'armes pour faire respecter le DIH. Donc ça, c'est une action qu'on fait de manière continue avec les porteurs d'armes et qu'on fait particulièrement sur la violence sexuelle. Donc on a des formations qu'on fait auprès des porteurs d'armes sur la violence sexuelle en particulier, sur sa prévention, sur le fait que le DIH l'interdit. On parle avec les gens qui ont une fonction de commandement afin qu'ils fassent respecter ça par leurs éléments. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on essaye de construire en fait un environnement sûr autour des personnes. Donc, il y a tout un travail. On a des campagnes de sensibilisation auprès des communautés afin que ces mêmes communautés soient en fait un environnement protecteur des femmes dans leur communauté. Si les cas de violence sexuelle se présentent, pour qu'elles sachent où chercher de l'aide, notamment vers quelles institutions de santé se diriger. Et puis, on fait aussi un travail d'analyse. Je vous donne un exemple. Souvent, les femmes, quand elles vont chercher le bois ou quand elles doivent aller chercher de l'eau ou aller aux champs qui sont relativement loin de leur lieu de résidence, il y a souvent des risques qu'elles soient soumises à des violences sexuelles. Donc dans notre travail d'assistance, par exemple, dans tout ce qui est accès à l'eau, on essaie de rapprocher les services auprès des personnes afin d'éviter ce genre de choses. Donc voilà, et ça c'est quelque chose d'un peu particulier du CICR. Et il y a toute la réponse aussi. La réponse, elle est aussi multidimensionnelle.
Et dans la prévention des violences sexuelles, votre particularité, c'est les dialogues avec les porteurs d'armes, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez donner plus d'explications sur cette action?
Oui, bien sûr. C'est un dialogue confidentiel. À ces mêmes acteurs armés, on présente ce qu'on observe parce qu'on a des discussions avec les victimes sur le terrain. On leur présente des cas, on leur présente des tendances qu'on observe. et on essaie de travailler avec eux pour éviter leur répétition. Et puis on leur fait comprendre aussi l'importance justement de respecter ces civils en tout temps. On parle de violences sexuelles, mais il y a aussi d'autres abus des fois qui sont commis. Et on se réfère à tous ces abus avec tous les porteurs d'armes.
Le Nord Kivu fait face à des combats armés intenses avec une diversité des troupes sur son sol. Est-ce que les CICR sensibilisent tous ces acteurs armés sur l'interdiction des pratiques des violences sexuelles sur les civils?
Oui, absolument. Comme je vous le disais, l'interdiction de la violence sexuelle fait partie des thématiques que le CICR aborde. Effectivement, on vit un moment particulier ici dans le Nord Kivu. On a énormément d'hommes en armes qui sont impliqués, mais on a fait cet effort auprès d'eux pour rappeler qu'il y a des choses qui sont interdites au niveau du DIH. Notamment, on considère la violence sexuelle comme étant un traitement indigne et humiliant qui est condamné par le droit international humanitaire. Mais comme je vous le dis, on travaille beaucoup plus sur la persuasion pour que ces comportements puissent changer sur le long terme.
Et justement, quel est l'impact de ce travail que vous faites ici au Nord Kivu, dans nos communautés?
Alors écoutez, l'impact, c'est toujours la chose la plus difficile à mesurer. Là, sur le dialogue, c'est aussi des choses qui sont difficiles à mesurer. Je crois qu'au niveau de la prévention, on a fait beaucoup avancer, notamment sur la construction de ces environnements protecteurs. Dans beaucoup d'endroits, on a fait ces sensibilisations avec notre département de santé mentale. On a des relais communautaires au niveau du terrain. Donc voilà, il y a aussi une visibilisation de l'existence de cette dynamique. Donc je pense que là, on a un impact sur vraiment avoir un environnement protecteur pour ces victimes. Et aussi, je pense, tout le travail qui est fait quand on discute avec tout ce qui est en fait la réponse qui est apportée au niveau de l'assistance. La recherche aussi d'éviter ces risques. On a vu des résultats, par exemple, quand on a pu approcher ou les cultures ou le système d'adduction d'eau aux communautés.
Anne-Sylvie Linder, je rappelle que vous êtes chef de la sous-délégation du CICR à Goma. Merci.
Merci à vous, Rosalie, et bonne journée.
Merci.
À vos auditeurs de Radio Capi, nous souhaitons aussi bonne soirée et merci d'avoir été des nôtres.